Radio Okapi. Le journal présenté par Belinda Bossouma.
L'Observatoire de la dépense publique et la ZADO demandent au procureur général près la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre les ministres et autres agents publics impliqués dans la mauvaise gestion des concessions forestières, acteurs identifiés dans le récent rapport de l'IGF. Ils l'ont dit dans une conférence de presse hier à Kinshasa. L'activisme des groupes armés perturbe le travail et l'émergence de la femme dans la région de Beni. Déclaration de la directrice du Fonds pour les femmes congolaises. C'est en marge des activités liées au mois de la femme. Julienne Lusenge plaide pour la restauration de la sécurité à Beni. Et puis, non à l'exécution de la peine capitale, quelle que soit la faute commise. Réaction du président de l'ONG Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Il réagit ainsi à l'initiative du Conseil supérieur de la défense visant à recourir à cette peine contre des militaires qui se seraient rendus coupables de trahison dans la guerre de l'Est du pays. Maître Henri Wemboloa est l'invité de ce journal. Mais d'abord, cette information qui vient de nous parvenir. La Cour constitutionnelle autorise les anciens députés des territoires de Rutshuru, Masisi et Kwamout à siéger au Parlement jusqu'à la tenue des nouvelles élections dans ces contrées. C'est ce qui ressort de l'arrêt de la Haute Cour rendu hier mardi. Il s'agit des députés de la législature des 2018 à 2023 de ces territoires où la CENI n'a pas organisé des élections. Madame, Messieurs, bonjour. L'Observatoire de la dépense publique ODEP et l'Association africaine des défenses des droits de l'homme, ASADO, demandent au procureur général près la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre les ministres et autres agents publics impliqués dans la mauvaise gestion des concessions forestières identifiées dans le rapport de l'IGF relatif à ce dossier. Jean-Claude Katende, président national de l'ASADO, et Jacques Kachelewa, directeur exécutif de l'ODEP, citent à titre illustratif la cession des concessions forestières de gré à gré et l'octroi d'autres à des entreprises qui ne sont pas immatriculées au registre de commerce en violation de la loi. Ils l'ont dit au cours d'une conférence de presse hier à Kinshasa. Selon eux, cette pratique qui frise la corruption donne lieu à des droits non perçus par le trésor public des plus de 10 millions de dollars américains de 2014 à 2020. Jean-Claude Katende explique dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
L'inspection générale des finances, l'IGF, a produit plusieurs rapports intéressants sur des questions diverses, mais auxquelles les institutions publiques, principalement la justice et le Parlement, ne veulent pas donner effet. C'est pourquoi nos deux organisations ont pensé qu'il est important de mettre certains acteurs devant leurs responsabilités en rappelant que ces rapports doivent contribuer à faire changer la situation en République démocratique du Congo, surtout à lutter contre l'impunité. Des abus ont été commis. Il était important que les silences de la justice congolaise vis-à-vis de toutes ces personnes soient rompus. Quand vous lisez ce rapport sur les concessions forestières, vous allez effectivement vous rendre compte qu'il y a eu un certain nombre de pratiques de corruption qui n'ont pas permis à l'État congolais d'entrer en possession de ses droits.
Selon l'ODEP et la ZADO, ces actes posés par des ministres et autres agents de l'État sont cités dans le rapport de l'Inspection générale des finances relatif au contrôle de la légalité des allocations et de cessions des concessions forestières et des droits dus au trésor public par des exploitants forestiers. Pendant ce temps, en Ituri, plus de 10 000 tonnes de café produits artisanalement dans les territoires de Mahagi et Djougou sortent du pays frauduleusement au bénéfice de l'Ouganda, ce qui, selon des opérateurs économiques évoluant dans ce secteur, ne profite pas à l'État congolais. C'est la conséquence du manque d'une unité de traitement et de transformation de café dans cette région. Les opérateurs économiques appellent le gouvernement à valoriser ce secteur qui peut générer beaucoup de capitaux pour le pays. Plus de détails avec Martial Kizabiamungu.
Plus de trois quarts de la population du territoire des Magu et une partie des Ndjougou cultivent artisanalement les cafés dans plusieurs villages. Cette activité, porteuse des richesses dans les années 70 et 80, est toujours en difficulté à cause de non-accompagnement de l'État. Résultat, ce secteur ne profite pas à l'économie de la RDC, mais plutôt celle de l'Ouganda. Pacifique Taoupar, opérateur économique actif dans le secteur des cafés, parle également de la multiplicité des taxes prélevées par l'État qui ne favorise pas le climat des affaires. Cela pousse les cultivateurs des cafés à privilégier l'exportation frauduleuse de leurs produits bruts en Ouganda.
Il faut qu'il y ait un accompagnement. Et cet accompagnement, c'est d'abord assainir le climat des affaires. Il y a trop de taxes dans l'exportation.
En attendant un accompagnement du gouvernement congolais, certains opérateurs économiques se sont regroupés dans des coopératives pour promouvoir leurs produits. D'autres, cependant, installent progressivement des stations de traitement des cafés dans plusieurs entités pour fédérer certains producteurs pour une exportation organisée malgré des difficultés financières. De retour des Magu, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis cet appel du gouvernement lancé à une centaine d'opérateurs économiques venus de plusieurs pays en vue d'explorer les possibilités d'investissement en RDC. Au cours d'un forum économique hier mardi à Kinshasa, Julien Paluku, ministre de l'Industrie, les a invités à investir dans les différents secteurs tels que l'agriculture, l'énergie et les infrastructures routières. Suivez Julien Paluku dans cet extrait choisi par Paul Matendo Mayamba.
Première priorité, premier secteur, c'est l'agriculture. Pourquoi? Parce que les statistiques dont nous disposons démontrent que la RDC importe pour près de 3 milliards de dollars chaque année les produits agroalimentaires. Ça veut dire que nous avons un marché potentiel de 3 milliards de dollars en termes seulement de produits agroalimentaires. Si donc vous, opérateurs économiques, vous venez vous investir dans ces secteurs de transformation agricole, vous avez 3 milliards de dollars comme marché à gagner à l'intérieur du territoire national. Deuxième opportunité, c'est le secteur énergétique. Vous savez qu'il n'y a pas d'industrialisation sans énergie. Or, nous avons les barrages d'Inga qui a un potentiel de 44 000 MW. Troisième secteur, les infrastructures. Nous sommes un vaste pays, mais avec un réseau routier de 58 000 km.
Selon le ministre de l'Industrie, ce forum va se clôturer le 7 mars, demain donc, avant de se poursuivre à Lubumbashi du 7 au 9 mars en cours. La douane congolaise coûte cher, alors excessivement cher. Ce sont les commerçants du marché transfrontalier de Lufu qui le disent. Angolais comme Congolais, interrogés à ce sujet, renseignent que les prix à payer pour passer les marchandises ne sont pas fixes. Ils varient au jour le jour et selon l'humeur du douanier en présence. Et même si vous avez payé ce qu'il faut à la DGDA, il faut également payer à chaque bureau où passe votre dossier avant la sortie des marchandises, ajoute-t-il. Écoutons quelques commerçants du marché transfrontalier de Lufu fou dans ce reportage signé Daniel Tambinzoni.
Les vendredis, samedi, même les dimanches sont les jours où le marché reçoit beaucoup de monde, commerçants comme acheteurs. Mais lors de notre passage le week-end du 17 et 18 février, la règle n'a pas été respectée. Pour les commerçants importateurs, l'affluence commence à faiblir parce que le marché n'est plus assez fourni et approvisionné comme par le passé. La douane coûte cher et commence à réduire les rotations des commerçants. Madame Rachel vend les produits alimentaires.
S'il vous plaît, monsieur le président, regardez un peu de ce côté, la douane de Lufu est trop chère. Elle nous étouffe et ne nous permet pas d'évoluer. Du côté de l'Angola, le prix de la douane est supportable et fixe, mais pas du côté congolais. Il y a trop de frais à payer. Le Congolais tue le Congolais à Lufu.
La même plainte revient au pavillon où l'on vend des chaussures importées d'Angola et d'ailleurs. Le chef du pavillon, Adao, et ses collègues reprennent le même refrain.
L'Angola facilite le petit peuple à bien tenir son commerce et son entreprise. À notre douane de Lufu, les prix ne sont pas fixes. Par contre, en Angola, les prix sont catégorisés et classifiés en régime. Mais ici, le douanier vous donne le prix à payer 5 000, 3 millions de francs, sans aucune référence.
Nous n'avons malheureusement pas pu avoir les responsables de la DGD à Lufu pour répondre à toutes ces plaintes. En l'absence de la représentation de la FEC à Lofou, la société civile locale craint que le coût élevé de la douane amplifie la contrebande. La douane de Lofou est la seule voie officielle d'entrée et de sortie entre l'Angola et la RDC dans cette partie, mais il en existe plus de 30 qui ne sont pas contrôlés, a même reconnu l'administrateur du territoire de Songololo.
Nous sommes à 2 jours de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. La présidente du conseil d'administration de l'ONG Solidarité des femmes pour la paix et le développement intégral, Sophie Paddy, et directrice du Fonds pour les femmes congolaises, plaide pour la restauration de la sécurité à Beni au Nord Kivu. Selon Julienne Lusenge, l'activisme des groupes armés perturbe le travail et l'émergence de la femme dans la région. Pourtant, ces femmes en majorité rurale contribuent énormément à la survie de leur famille, précise-t-elle. Julienne Lusenge le dit à Martial Papimukeba.
Le milieu rural est notre milieu naturel. C'est là que les femmes vivent. Elles vont au champ, elles vont à la source, elles vont chercher du bois mort, elles cherchent la nourriture. C'est là leur milieu. Quand ce milieu est affecté par l'insécurité, elles ne peuvent plus accéder à leur milieu naturel. Et donc, elles sont privées de toute activité pour la survie. Elles sont privées de ce milieu vital pour leur famille et pour elles-mêmes. L'insécurité est en train de nous détruire chaque jour et chaque seconde. Malheureusement, ça dure et perdure. Donc, c'est toute la production. L'économie est par terre. Les familles meurent de faim. Comment on peut expliquer la malnutrition à Oicha? Comment on peut expliquer qu'il y a famine dans le territoire de Beni? C'est à cause de l'insécurité. Les femmes n'arrivent plus à produire leurs récoltes pour vendre et avoir de l'argent. C'est le champ qui est la source de l'économie de la zone de Beni. Quand on n'a pas accès à son champ, on n'a plus de ressources. On nous appelle les autorités à travailler pour mettre fin à l'insécurité. Mais aussi, tous les collabos, nous leur demandons d'arrêter.
En Ituri, signalons la libération depuis hier mardi à Komanda du responsable de la coalition associative résolue pour la défense des droits humains, Coardo, dans le territoire d'Irumu, John Kiimba. Et cet activiste dont nous parlions hier dans nos éditions du matin, arrêté samedi dernier par les services de sécurité à Komanda, il était suspecté d'être de connivence avec le responsable du mouvement Alliance Fleuve Congo, allié du M23. Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, John Kiimba a été interpellé pour des besoins de renseignement. Le lieutenant Jules Ngongo indique que cette procédure est tout à fait légale pour permettre aux services de sécurité de recueillir toutes les informations nécessaires sur ses relations avec l'ancien responsable de la CENI. Le lieutenant Jules Ngongo explique au micro d'Ezekiel Mousalia.
Il était question d'interpeller ses compatriotes pour savoir les tenants et aboutissants d'une information qu'on détenait. Donc aujourd'hui, il a été libéré sans condition. C'est tout à fait normal. Nous sommes à l'état de siège. Si nous avons une information que nous demandons, nous cherchons à vérifier ou à contre-vérifier, vous savez, non seulement une inquiétude en Ituri, c'est pour toute la République. Parce que Nang a déclaré la guerre contre la République. D'office, il devient un ennemi de la République. Et donc toute personne épris de paix, épris du développement de notre province, doit neutraliser Nanga sans même l'accord du gouvernement ou du chef de l'État. Parce que l'ennemi de la République, il faut le neutraliser partout où vous pouvez le trouver. Nous sommes dans un milieu rébellionnaire. Là où les balles ont sifflé d'une décennie, et donc il faut être plus prudent. Et il faut mettre les mécanismes en place pour dénicher tout cela qui peuvent être avec les accointances avec les ennemis de la République.
Autre nouvelle, la politique de tolérance zéro contre les auteurs des violences sexuelles est déjà d'application au sein des FARDC. Déclaration faite hier à Lubumbashi par le secrétaire général de la commission de lutte contre les violences sexuelles au sein des FARDC, le général Jean-Daniel Batambito l'a indiqué après le séminaire organisé à ce sujet la semaine dernière au centre d'instruction Moura. Le général Jean-Daniel Batambito est au micro de Jean Gandou.
Depuis 2014, les forces armées de la République démocratique du Congo ont adopté un plan d'action de lutte contre les violences sexuelles conformément au communiqué conjoint qui a été signé entre le gouvernement et les Nations Unies. Aussitôt que ce plan d'action a été adopté, il y a une commission chargée du suivi de la mise en œuvre qui a été mise en place. Et dans la stratégie de la mise en œuvre, il était prévu que toutes les grandes unités soient sensibilisées dans le cadre de la prévention et de la répression des violences sexuelles. parce que les violences sexuelles sont proscrites par les statuts du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo et les lois de la République. À cet effet, au niveau des FRDC, quel que soit le grade et rang, tout auteur qui commet les actes de violences sexuelles est sanctionné sévèrement. Et d'ailleurs, cela a été encore boosté lorsque le commandant suprême de nos forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété la politique de tolérance zéro immédiate contre les auteurs de violences sexuelles et ses mots d'ordre et d'application au sein de nos forces armées.
Actualité internationale.
Nous sommes au Kenya. Deux avions sont entrés en collision en plein vol au-dessus du parc national de Nairobi. Le plus petit s'est écrasé dans le parc et a tué deux personnes, a annoncé la police mardi. Le plus gros avion, un Dash 8 avec 44 personnes à bord, dont 5 membres d'équipage, s'est dirigé vers la station balnéaire de Diani lorsque l'équipage a signalé une forte détonation peu après le décollage de l'aéroport Wilson et a décidé de faire demi-tour, a indiqué la compagnie aérienne propriétaire de l'engin.
L'invité.
Non à l'exécution de la peine capitale, quelle que soit la faute commise, c'est la réaction de Maître Henri Wemboloa, avocat et président de l'ONG Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Il réagit à l'initiative du Conseil supérieur de la défense visant à recourir à cette sanction contre des militaires qui se seraient rendus coupables de trahison dans la guerre de l'Est du pays. Maître Wemboloa propose des solutions alternatives dans cet entretien accordé à Babel Mpongo Masimango.
Maître Henri Wemboloa, bonjour.
Bonjour Madame Babel.
Le Conseil supérieur de la défense souhaite le rétablissement de la peine de mort en République démocratique du Congo pour des militaires qui se rendraient coupables de trahison dans la guerre dans l'Est du pays. Comment vous réagissez à cette initiative?
Il faut d'abord saluer le travail du Conseil supérieur de la défense, de constater et de mettre, n'est-ce pas, à jour au grand public l'existence de beaucoup de traîtres dans l'armée. Nous conseillerons que d'autres études soient menées pour avoir plus de détails et de précisions s'agissant des motifs à la base de cette traîtrise. Quant à la mesure de lever de moratoire sur l'exécution de la peine de mort, nous disons que c'est aller trop vite en besogne et nous ne sommes pas vraiment d'accord avec cette opinion.
Pourquoi vous pensez que la peine capitale ne doit pas s'appliquer en RDC alors qu'elle figure dans le code pénal congolais?
Madame, il y a à dire à ce propos, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui la peine de mort figure, n'est-ce pas, parmi les peines prévues par la législation. Mmh. Aujourd'hui, nous avons une situation qui nous amène vers l'abolition de la peine de mort. Parce que dans notre constitution, prenez article 16, article 61, où on parle de la vie qui est sacrée, on a dit qu'on ne peut en aucune circonstance, même s'il y a état de siège, toucher à certains principes fondamentaux et certains droits comme la vie. Et donc, là, nous sommes vers une abolition. Deuxièmement, nous pensons que c'est très important. Nous ne voulons pas de la guerre, nous ne voulons pas de la traîtrise, et nous avons de la compassion pour autant de morts. C'est la situation en RDC, comme tous ceux qui sont à l'extérieur de la RDC, qui ne sont pas d'accord avec des actes de torture, des assassinats qui se commettent à l'occasion de la guerre. Dire qu'il faut recourir ou exécuter la peine de mort, là encore, nous disons non. Parce que la peine de mort ne donne pas une garantie de sécurité, de manque de traîtrise. À titre d'exemple, je vais vous dire. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont reçu des mandats d'arrêt international et qui se retrouveraient à l'extérieur du pays. Ces personnes-là, il n'y a aucun pays qui peut accepter de les extrader vers la République démocratique du Congo. Pourquoi? Conformément à la Convention contre la torture, on ne peut pas extrader une personne là où il y a la torture, là où on applique la peine de mort. Et vous verrez, il suffit d'exécuter un seul cas de peine de mort, plusieurs personnes vont quitter encore le pays. Ils vont aller se réfugier ailleurs.
Pour ceux qui prônent le recours à la peine de mort, est-ce que ce ne serait pas un moyen de dissuader d'autres de recourir à ces actes de traîtrise?
Les études qui ont été menées à travers le monde ont démontré que la peine de mort n'a pas d'effet dissuasif.
Oui, et maître, pour le Conseil supérieur de la défense qui pense qu'il faut châtier fortement avec la peine capitale et les traîtres, disons, qu'est-ce que vous proposeriez alors comme alternative pour punir sévèrement les militaires auteurs de traîtrise?
Punir sévèrement, c'est bien dire. Mais aujourd'hui, en criminologie, il y a un principe. Nous avons besoin de la certitude de la peine plutôt que de la sévérité de la peine. Nous nous disons qu'il y a des solutions appropriées que l'on peut apporter par rapport à ce problème. Même les sanctions disciplinaires au sein des institutions, elles sont importantes. Par rapport à la question de la guerre, la question de la traîtrise, il y a plusieurs solutions, y compris aussi la justice transitionnelle. Coup de chapeau pour le gouvernement qui a commencé à nous chercher une politique pour la justice transitionnelle. Et dans cette justice transitionnelle, on parle des réformes des services de sécurité. C'est quelque chose d'important, parce qu'on sait que dans les services de sécurité, nous avons beaucoup de traîtres. Quand on va procéder à la réforme, on va enlever des tomates pourries. Voilà autant de solutions qui existent, et il faut avoir, n'est-ce pas, la tête froide pour trouver des solutions aux problèmes. Le président de la République parle par moment de la question de la justice. Il y a des erreurs judiciaires. Et on peut encore commettre beaucoup d'erreurs judiciaires. Et là, nous avons salué son action, s'agissant par exemple de l'affaire assassinat de feu Laurent Désiré Kabila. On n'a pas de décision judiciaire palpable. Il a dit non, que tous ceux qui sont arrêtés, qui ont passé de 20 ans, ils sont sortis de prison, alors qu'ils ont été condamnés à la peine de mort. Et s'ils étaient exécutés?
Merci, Maître Henri Wembolia, d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
Le président de l'ONG Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux répondait aux questions de Babel Pongo Massimango. Par ici prend fin ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo. Paul Badianyama à la mise en onde. Merci de rester des nôtres.